À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir.
Le podcast.
Pour approfondir le sujet essentiel de la transition énergétique, j'ai eu envie de changer de focale. Après avoir interrogé un expert, je me suis demandé comment ceux qui travaillent dans le secteur de l'électricité vivent ces enjeux de transition et comment ils essayent de les traduire dans leurs actions quotidiennes.
Never has an era been so impenetrable.
Il nous incombe la tâche de nous réinventer sans cesse. Réintroduire dans nos existences la capacité merveilleuse d'innover.
In order to climb into the future, it is an emergency.
C'est un fait qui peut être une fête aussi d'innovation et d'intelligence collective.
Between the past and the future, to challenge tomorrow. We are needed.
Faire avec, faire ensemble.
Make together.
Fabriquer de nouveaux modèles, imaginer de nouvelles technologies qui respectent l'environnement. Nous sommes requis d'opérer toutes les transitions nécessaires à l'équilibre qu'il nous faut trouver pour préserver la planète. Nous sommes requis et nous incombe la tâche ardue et noble d'aller plus vite, ensemble.
Together.
Parce que c'est bien joli de dire « les grandes tendances c'est ça et voilà ce qu'il faut faire », mais à un moment, il faut le faire et mettre ses mains dans le cambouis et monter des projets pour changer concrètement l'existant. J'ai donc voulu m'infiltrer chez l'acteur historique de l'électricité en France, à savoir EDF.
Aujourd'hui, 75% de l'électricité est nucléaire.
GDF Suez.
Attends, EDF, ils ont jamais fait de gaz.
Si.
Ma fichue perceuse électrique.
Électrique ou pas, on casse les oreilles.
On pourrait même dire nucléaire.
Je cherche des solutions tangibles au réchauffement climatique.
Une électricité à 97% sans CO2, c'est mieux pour le climat.
Je vous appelle concernant votre dernière facture d'électricité.
Apparemment, on consomme trop.
EDF, nous vous devons plus que la lumière.
Over whiskey flats and I'm on my way, Lord, let me fly. The bosky flows and it runs dry. I'll hold me down till I will die.
Guidée par Aude Vinsrich, qui dirige la stratégie d'innovation de l'entreprise, j'ai cherché à appréhender, au moins un peu, comment la transition énergétique impactait les logiques d'innovation du groupe. Car pour moi, on ne peut pas dire « nouveaux enjeux » et continuer le « business as usual ».
L'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le monde se défasse. Exactement la rhétorique de l'Europe. On a des tas de défis, si on ne fait rien, c'est la cata. Et il faut innover pour que rien ne change. Il faut faire les mêmes choses, mais autrement, pour que rien ne change. On puisse consommer comme avant, mais autrement, etc. Bon, ça, c'est antinomique.
Pour répondre aux défis dont parlait Karim Megharbi dans l'épisode précédent, il faut nécessairement inventer, créer, définir autrement les objectifs de l'entreprise et faire évoluer sa manière de produire de l'électricité. Alors, Aude, comment aller au-delà des seules logiques métiers de R&D ? Comment trouver les idées de rupture qui permettront les transformations de demain ? Comment diffuser ces idées, permettre leur appropriation et leur développement, tout en continuant à assurer le cœur de métier de l'entreprise, à savoir la fourniture et la production d'électricité. Autrement dit, quel rôle pour l'innovation dans la transition énergétique ? Et à quoi sert chez EDF une direction de l'innovation ?
C'est une direction qui s'est montée il y a 1 an et demi, avec cette volonté de vraiment pouvoir accélérer l'innovation, enfin dans cette démarche de transition énergétique pour pouvoir atteindre la neutralité carbone. On le sait, il y a une grande majorité des innovations qui ne sont pas encore déployées aujourd'hui et qui permettraient pourtant d'atteindre la neutralité carbone, donc il y a urgence à innover. Nous, on est vraiment parti de ce constat-là en se disant la moitié des innovations qui sont nécessaires à l'atteinte de cette neutralité carbone en 2050 ne sont pas encore déployées. C'est-à-dire qu'il y a certaines technologies qui sont déjà en émergence dans des labos, qui sont déjà en cours de déploiement, mais qui ne sont pas encore passées à l'échelle. Et puis, à côté de ça, il y a peut-être des choses en fait, qu'on a soit juste en tête, mais qui ne sont pas encore voilà, avec des TRL.
TRL. Pour les non-initiés, le TRL ou Technology Readiness Level mesure le niveau de maturité d'une technologie. Développé par la NASA dans les années 70, il comporte 9 échelons. Plus le niveau est élevé, plus la technologie est estimée sécurisée pour être mise sur le marché à travers un produit. Le TRL fournit ainsi une compréhension commune de l'état d'une technologie et permet de gérer le risque, le temps et les moyens à déployer pour la rendre applicable.
Pour pouvoir être un acteur de la transition énergétique et pour pouvoir atteindre cette neutralité carbone et être un véritable acteur de cette neutralité carbone, il faut innover. Il faut innover vite, il faut accélérer l'innovation, il faut être un véritable acteur pour pouvoir déployer cette innovation à la plus grande échelle. Nous, on n'est pas du tout là pour rationaliser ou pour réguler l'innovation. On est vraiment plutôt là pour aider, apporter encore plus de performance et puis à essayer de donner les grandes lignes dans lesquelles il faut absolument que le groupe puisse déployer son innovation et la rendre le plus robuste et performante possible. C'est vraiment l'objectif de notre équipe. Parce qu'en fait, à EDF, il y a quand même une R&D qui est très forte. C'est au niveau international près de 2000 chercheurs. Donc c'est vraiment une très très grosse R&D avec des chercheurs extrêmement experts sur des sujets de pointe. L'objectif de la direction innovation, c'est qu'une petite cinquantaine de personnes, c'est pas du tout de se substituer à la R&D, mais plutôt d'aller au-delà, c'est-à-dire quand on a une invention ou un sujet de recherche qui donne vraiment satisfaction, de se dire comment est-ce qu'on peut aider à ce que ce sujet-là trouve son marché, trouve ses utilisateurs et puisse vraiment se déployer. Donc comment est-ce qu'on passe en fait de cette technologie qui peut être émergente ou qui peut être du coup très mature, comment est-ce qu'on fait pour l'aider à rencontrer son marché ?
Alors moi, quand j'entends qu'il faut aider une techno à trouver son marché, je ne peux pas m'empêcher de me demander si on en a vraiment besoin de ce nouveau produit. On le voit beaucoup avec le digital depuis les années 2000. Des technologies ont abouti à créer des besoins qui n'existaient pas auparavant et à faire exploser la consommation. Alors, dans un contexte général où la question de la décroissance se pose, est-ce qu'une entreprise comme EDF intègre déjà l'enjeu de faire baisser la demande en énergie dans ses démarches d'innovation ? Et si oui, sur quel type de projet ? Sur quoi l'entreprise travaille-t-elle ? S'intéresse-t-elle plutôt à la manière d'améliorer le rendement d'une éolienne ou à découvrir de nouvelles sources d'énergie ? Comment identifie-t-elle ses priorités ?
Je vais peut-être répondre en plusieurs étapes parce que ça me fait écho à plein de choses qui viennent de s'allumer. Alors du coup, ça va être compliqué.
On va être obligé de se...
C'est en mode sapin de Noël où tout s'allume en même temps. Alors, donc du coup, on va les prendre un par un. Sur quoi est-ce qu'on travaille ? On travaille à la fois sur la partie efficacité énergétique. Et ça, c'est historique. Depuis toujours, en fait, l'objectif, c'est voilà, comment est-ce que pour un même usage, je peux faire en sorte que l'énergie que je vais consommer, elle soit moindre. Et ça, c'est vraiment la technologie qui va nous le permettre parce que on va pouvoir ne pas toucher à notre usage, mais faire en sorte que je consomme plus propre et je consomme moins. Ça, c'est une partie, voilà, très centrée sur la partie technologique et c'est vraiment le cœur de métier d'EDF depuis toujours. Après, aujourd'hui, on ouvre un autre champ des possibles, si on peut dire, et on va sur le champ de la sobriété énergétique. Ça, c'est un champ qui est très nouveau, où on va être beaucoup plus sur des aspects même sociologiques, des aspects de société. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très nouveau parce qu'on n'est plus sur la partie technologique pure. Et on a de gros projets, de gros sujets de réflexion en ce moment sur ce domaine-là, parce qu'on pense qu'on est en train d'entrer dans un nouveau paradigme et du coup qu'il faut accompagner ce changement-là et de voir comment est-ce que je peux aussi modifier mes usages. Et donc là, en fait, on n'est plus seulement sur comment est-ce que pour un même usage, je peux réduire le besoin en énergie, mais comment je peux même modifier mon usage du coup pour avoir un besoin en énergie qui est encore plus faible, mais parce que j'ai modifié mon comportement. Là-dessus, en fait, on l'explore comment ? Avec des démarches qui viennent des mines, Paritech. C'est une démarche d'innovation qui s'appelle CECA, pour Concept Knowledge.
La théorie CECA, c'est une axiomatique du raisonnement de conception.
Oh là 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 là.
C'est une méthode pour concevoir n'importe quoi. Par exemple, un moteur pour l'exploration martienne, une nouvelle direction pour votre entreprise, ou un objet dont personne ne sait encore ce qu'il va être. Des choses qui n'existent pas encore, mais pas pour les concevoir n'importe comment.
Elle considère qu'il y a à la fois besoin de connaissances pour être en mesure de créer quelque chose de nouveau, il faut s'appuyer sur ces connaissances, et les idées qui nous viennent sont en miroir des connaissances.
Ces démarches-là, elles sont intéressantes pourquoi ? Parce qu'on essaye de d'identifier comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui. Finalement, quels sont nos biais, nos fixations, qu'est-ce qui est le très convenu pour tout le monde et dont on s'en rend même plus compte, on s'en aperçoit pas, parce qu'en fait, c'est notre culture, c'est notre quotidien, c'est notre société qui est faite comme ça.
Quand vous essayez de trouver des idées qui sont créatives, c'est un petit peu comme quand vous prenez un arbre, il y a plein de feuilles, et c'est pareil pour vos idées, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Seulement, si vous ne faites pas le tri dans les idées que vous avez, entre celles qui sont intéressantes, celles qui ne sont pas intéressantes, et si vous ne les mettez pas par paquet d'idées, alors du coup, vous n'arrivez pas à être créatif. Si vous prenez un arbre, il y a plein de feuilles, et puis si vous regardez mieux, il y a des feuilles qui sont jaunes, il y a des feuilles qui sont vertes, et puis du coup, vous pouvez classer les feuilles. Donc on va faire exactement la même chose avec vos idées et avec les connaissances.
Donc on a des phases, en fait, où on va identifier ça. Et puis ensuite, on a d'autres phases sur lesquelles on va essayer de sortir de ce champ du très connu et d'aller finalement imaginer des nouveaux possibles, imaginer des choses sans contrainte en se disant qu'est-ce qui pourrait être complètement radicalement différent. Et donc on a tout un atelier de déconstruction et c'est très difficile en fait pour nous tous parce qu'on va aller sur un terrain qui est complètement incertain, qui est complètement risqué, qui est inconnu et on va déconstruire tout ce qu'on connaît déjà. Puis on va avoir une autre étape où on va reconstruire du coup notre objet. Donc, on identifie nos biais, nos fixations, notre existant. On déconstruit tout ça, puis ensuite, on le reconstruit. C'est super difficile pour l'être humain de se rendre compte de tout ça et d'aller chercher quelque chose qui est très en rupture, finalement, par rapport à l'existant.
Retour à la question du début de l'enquête. Pourquoi est-ce qu'on pense comme on pense? Quels sont nos biais, nos certitudes et comment les dépasser? Appliqué à des problématiques industrielles, ça donne la méthode CK. Difficile, parfois douloureuse, mais permettant d'offrir des champs inexplorés pour l'avenir.
Donc c'est comme ça qu'on approche en fait cette notion de sobriété qui est pour nous vraiment une notion très à la fois très actuelle mais à la fois qui est pas simple parce que on sort de la partie technologique classique. C'est un peu cliché mais on est quand même dans une société de consommation et voilà, tout ce qui est high-tech, etc., elle va être vu aussi comme le Graal peut-être à atteindre pour certains. Et là, on va aller changer complètement cette façon de voir les choses. À notre échelle, en fait, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre, par exemple, la sobriété désirable. En se disant, aujourd'hui, la sobriété, parfois, ça peut être vu comme quelque chose de très austère, de très difficile, de sacrifice personnel. Parce qu'en fait, on touche à l'intime, on touche à la personne, on touche à notre façon de consommer. Et finalement, ça, c'est propre à chacun. Donc nous, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut construire ensemble des nouveaux récits, des imaginaires positifs. Non pas pour imposer quelque chose, mais plutôt pour répondre aussi à un monde qui change.
On est bien d'accord. Il faut rendre la sobriété désirable. Et pour cela, travailler sur les imaginaires et les nouveaux récits. Mais comment fait-on pour incarner cette orientation dans des projets d'innovation en électricité?
On est en plein dedans.
Ah, d'accord.
On est en plein dedans. On est en plein dans cette phase. Voilà, on identifie l'existant. On essaye de déconstruire. Et on va attaquer les étapes, on va reconstruire pour pouvoir se projeter dans autre chose. Et on a identifié comment est-ce qu'on pouvait atteindre ce qu'on va appeler le no frills.
No frills, qu'est-ce que c'est encore que cette notion? Outre une chaîne canadienne de supermarchés, No Frills signifie sans chichi, sans fioriture. On va à l'essentiel.
Et donc, c'est pareil, c'est un outil, c'est très méthodologique pour se dire, il y a différents critères qui vont correspondre à ce qu'on va appeler le No Frills. On va chercher autant que possible à les atteindre. Donc, comment est-ce que je peux avoir l'impact le meilleur sur l'environnement par rapport à mon projet? Comment est-ce que je peux avoir l'impact le plus positif même sur mon écosystème? Comment est-ce que je peux arriver au juste niveau de maintenance de cet objet que je pourrais créer? Voilà, c'est vraiment un guide méthodo qu'on peut déployer sur différents projets. Et puis peut-être pour répondre à la question tout à l'heure de est-ce qu'en fait on répond toujours à un besoin métier ou est-ce qu'on s'inspire différemment? En fait, ce qu'on a fait au niveau de notre équipe pour pouvoir identifier les projets prioritaires sur lesquels on allait vraiment mettre nos efforts pour la suite, c'est qu'on s'est dit finalement, il y a des besoins qu'on peut identifier en discutant directement avec les métiers, qui connaissent parfaitement leurs enjeux, qui sont vraiment dans l'opérationnel. Et là, on va avoir une forme d'innovation, on va aller répondre un peu à des pain points. Donc ça, c'est les ateliers très classiques qu'on connaît tous en innovation autour du design thinking, etc. Et en fait, là, on va aller optimiser un existant. Donc ça, c'est une première source pour nous d'inspiration et d'identification de projets à enjeux. Mais on s'est dit, si on fait que ça, finalement, on reste très proche de ce qu'on connaît déjà, très proche de notre cœur de métier. On ne va pas chercher une innovation à fort degré de nouveauté. Donc on trouvait que c'était trop restrictif, nécessaire mais trop restrictif. Donc en fait, on a complété en se disant, il y a aussi des innovations qui peuvent venir de la R&D ou de la recherche au sens large. On va aller identifier au sein de la R&D, au sein même des secteurs académiques avec lesquels on peut travailler, au sein aussi même des start-up avec lesquels on va travailler au quotidien, des technologies qui sont en émergence pour voir où est-ce qu'on pourrait les déployer. Donc pas forcément pour répondre à un besoin pré-identifié, mais plutôt de se dire là on a quelque chose qui pourrait peut-être même combiner avec d'autres au sein d'un projet, créer une valeur. Et puis, on va avoir une autre source d'inspiration où là, on va vraiment essayer d'attaquer ce qu'on peut appeler nos angles morts, c'est-à-dire de se dire on a toujours dans une entreprise une culture, on va avoir forcément une façon de penser, on va forcément avoir du coup des biais, des fixations. Comment est-ce qu'on peut autant que possible essayer de s'en extraire pour essayer d'aller regarder au-delà ? Là, c'est toutes les démarches un peu d'open innovation, des choses qui ne sont même pas forcément de notre domaine, qui peuvent nous faire penser en dehors du cadre. Et là, on va aller identifier d'autres sources d'idées. On va être vraiment au contact des tendances sociétales, de ce qui se passe dans d'autres milieux. Et là, c'est notre troisième source d'inspiration.
Voilà qui est très clair et très structuré. Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, l'innovation peut se déployer dans trois directions qui se combinent. L'amélioration de l'existant, l'élargissement du cœur de métier d'EDF et l'exploration de champs inédits qui peuvent paraître de prime abord très éloignés de ce qu'on attendrait d'un acteur du secteur. Tiens, ça me rappelle un peu ce que me disait Assine Happy dans l'épisode 9 sur l'évolution du rôle des banques. De financer l'achat, la possession, elles sont en train de passer à financer l'accès, l'usage. Et elles se retrouvent donc potentiellement à devenir concessionnaires automobiles ou presque. Et ben, j'ai l'impression que Aude me dit un peu la même chose. La transition fait bouger les lignes et oblige les entreprises à sortir de leur activité historique. Ce que je me demande, c'est si les trois directions dont on parle ont la même importance dans la stratégie d'innovation d'EDF ou si l'une des trois prédomine.
Je pense qu'en fait, sur un portefeuille d'innovation qu'on va gérer, il faut avoir différents types de projets. Il faut avoir des projets sur lesquels on va avoir une forte adhésion métier parce qu'on vient résoudre un problème hyper concret. Et là, en fait, on va optimiser l'existant. Donc, si on optimise l'existant, on est proche de notre cœur de métier. On est sur une innovation assez incrémentale, finalement, comme on appelle ça. Après, on peut aller un tout petit peu plus loin pour aller chercher une innovation un peu plus adjacente à notre cœur de métier. Et puis, si on veut vraiment aller chercher de l'innovation à fort degré de nouveauté, là, on est obligé de sortir du cadre. Donc, à première vue, ça peut être des projets sur lesquels on dit c'est hyper farfelu, c'est trop loin de chez nous, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. On va avoir un risque en fait, d'incertitude qui est très élevé. C'est des projets dans lesquels on se plonge dans l'inconnu. Donc nous, on essaye quand même d'avoir un pipe de projets équilibrés parce que si on n'avait que des projets qui sont à très très fort degré de nouveauté, ultra risqués, etc., je pense qu'on ne pourrait pas s'en sortir parce que voilà, on n'a pas forcément l'adhésion, on serait complètement hors sol. Donc nous, on essaye vraiment d'avoir cet équilibre entre différents niveaux de maturité même, de projet, et différents degrés de nouveauté. Mais la direction innovation est vraiment là pour aller au-delà de ce que les métiers font très bien déjà de leur côté. Et ce qu'ils font très bien, c'est l'innovation incrémentale. Nous, notre mission, c'est vraiment d'aller chercher l'adjacence et l'inconnu, on va dire.
Vaste programme. J'entends bien dans les propos d'Aude toute la difficulté à laquelle sont confrontées les entreprises dont le paradigme change. Impératif d'améliorer l'efficacité de l'existant le plus vite possible et en même temps nécessité de se projeter dans des champs d'activité, des modes opératoires et même des business models inédits. Et puis entre les deux, tout un spectre de projets est possible. Lesquels choisir ? Doit-on faire au mieux pour les résultats financiers de l'entreprise ou pour un bien-être collectif dans 50 ans, dont le contexte reste encore très flou ? Innover pour la transition énergétique, c'est donc courir plusieurs lièvres à la fois. Aude pourrait-elle nous en dire un peu plus ?
Sur la partie incrémentale, là, c'est vraiment de l'optimisation, on va dire, classique. C'est pas du tout nous qui allons les traiter. Mais par exemple, je peux parler de mon ancien travail, mon ancien poste. Moi, j'ai été directrice du programme d'intelligence artificielle. Ouais. On avait mis, par exemple, en place toute la partie chatbot, assistance virtuelle. Là, en fait, on va venir optimiser un existant. On a, par exemple, des différents métiers qui pouvaient répondre à des questions, soit de salariés, soit même des questions qui venaient de l'extérieur. Mettre un assistant virtuel en plus à disposition permet de soulager une équipe qui va déjà répondre au quotidien. Après, si on va chercher des choses à plus fort degré de nouveauté, on a, par exemple... là-dessus, je pense à des projets qu'on fait autour de la mobilité électrique. Okay. Donc, sur ces projets autour de la mobilité électrique, on a essayé de se projeter à un horizon temporel beaucoup plus lointain et sur des services qui ne sont pas du tout pris en charge aujourd'hui par le groupe, voire même pas pris en charge du tout. Et donc là, on va être plutôt en adjacence parce que notre groupe est vraiment sur le déploiement des bornes de recharge. Et on s'est dit, tiens, ben, la société est en train de bouger. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme service pour la mobilité électrique de demain ? Et donc là, on va dire, on est en adjacence, on reste sur ce métier de la mobilité électrique, mais on va aller chercher quelque chose qui nous permette d'aller un cran plus loin et de se projeter dans un univers plus lointain, plus risqué. Donc là, on a utilisé des méthodes assez intéressante d'innovation. On n'est plus sur du design thinking classique. On leur dit ben, comment je peux optimiser l'existant, parce qu'on va aller essayer de penser un peu en dehors du cadre, aller chercher des choses à plus fort degré de nouveauté. Là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec l'équipe de designers au sein de la direction innovation pour définir, écrire ensemble différents scénarios à horizon, je crois, 2030-2040, sans se dire que ce sont des scénarios qui sont probables. On n'est pas du tout sur des choses très factuelles en se disant c'est celui-ci qui va se passer en priorité. Donc, il y avait 5 scénarios différents qui vont être assez clivants. Un monde dans lequel on est sur de l'ultra-mobilité, ultra-technologique, un monde au contraire où on est dans une sobriété extrêmement contrainte, où on ne peut se déplacer que si vraiment c'est nécessaire. Voilà. Donc, on va avoir 5 scénarios très, très clivants. Puis ensuite, on crée ce qu'on appelle des personas. C'est des exemples un peu typiques, représentatifs, certaines populations de notre société pour avoir vraiment un panel assez large. Et puis, on va essayer de les projeter dans ces scénarios et se dire, ben, de quoi est-ce qu'il aurait besoin ? Une fois qu'on a tout ça, on a eu à peu près une 50aine d'exemples de services qui sont apparus. Puis on a un travail qui va être fait pour ensuite les regrouper, les reprioriser, voir finalement s'il n'y a pas quelque chose qui ressort un peu en noyau commun de tout ça. Et puis on s'est focalisé ensuite sur 2 ou 3 scénarios vraiment prioritaires où on s'est dit, tiens, ben, ça pourrait être un service qu'on aimerait bien, en tout cas, défricher un peu, aller explorer un cran plus loin. Donc, c'est comme ça qu'on est allé chercher ces nouveaux projets autour de la mobilité. Ce que le métier même nous dit, c'est qu'on ne peut pas être à la fois dans le quotidien, dans l'opérationnel et penser au plus lointain. On devient un peu schizophrène. Et la direction innovation est vraiment là pour les aider à ouvrir de nouveaux champs des possibles et à les accompagner autant que possible à sortir du cadre. C'est eux qui ont l'expertise, c'est eux qui ont la connaissance métier. Nous, on va apporter plutôt des démarches et une autre façon de penser.
Si je comprends bien ce que me dit Aude, la direction de l'innovation permet à l'entreprise de prendre du recul nécessaire pour se projeter à plus long terme. Pour réussir cela, elle mobilise différentes méthodes, dont le design fiction. Et tiens, ça me rappelle exactement ce que disait Nicolas Mainviel dans le premier épisode à propos des effets désastreux de la pression du court terme sur les décisions des entreprises. Il faut donc, au sein même de ces entreprises, une entité qui soit chargée de porter cette vision long terme et de l'articuler avec l'expertise et les problématiques des directions métiers.
Je pense que nous, on est vraiment là pour essayer de voir comment est-ce que la société est en train de bouger. On a dans notre équipe une veille sur des tendances sociétales qui est réalisée et dont on se sert vraiment beaucoup et qui nous inspire vraiment au quotidien. Parce que je pense que ce qui peut être vraiment très dangereux pour une grande entreprise, c'est finalement rester un peu en vase clos, très fermé, et ne pas se rendre compte que le monde est en train de bouger autour. Et je pense que c'est partant de ce constat-là qu'on déploie particulièrement cette énergie pour rester au contact du monde qu'il y a autour et pas être focus sur finalement notre opérationnel du quotidien, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux, enfin, pour une entreprise bien sûr, mais même enfin, pour l'individu en général. Et là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont mis en place au sein de la direction innovation avec différents programmes pour aller au contact des startups. Oui. Donc là-dessus, on a une équipe d'Open Innovation qui va sourcer différentes startups qui pourraient ensuite permettre au métier d'accélérer certaines innovations qu'ils sont en train de mettre en place. Il y a une équipe de Corporate Ventures qui va investir dans des startups de la même façon pour créer de superbes synergies avec les métiers et puis d'apprendre aussi de ce monde qui va être très riche et d'apporter de nouvelles briques dans la construction des projets qu'on peut avoir. Nous, on est très liés aussi aux autres entreprises, au secteur académique, à ce qui se passe autour de nous. Enfin, il y a, je trouve, une veille et une présence dans l'écosystème qu'on essaye de déployer de plus en plus pour vraiment être au contact de ce monde qui est en train de bouger.
Pas facile de rester en prise avec le monde qui bouge quand on est une grande entreprise confrontée au quotidien à des impératifs de service et à des défis très opérationnels, par exemple celui des réacteurs nucléaires en maintenance. Aude et ses équipes ont donc un rôle très important pour permettre à ce mastodonte organisationnel de ne pas passer à côté de pistes d'innovation qui pourraient s'avérer déterminantes pour la future activité de l'entreprise et donc aussi pour notre avenir. Ma curiosité est éveillée. Quelles seraient les innovations de rupture porteuses d'un potentiel de développement pour répondre aux enjeux de la transition énergétique ?
On peut parler des projets, on va dire, super risqués et je pense que la direction innovation, elle est vraiment là pour ça. On ne va pas parler, nous, à notre stade de ROI. On n'est pas du tout en train de se dire finalement si je lance ça, ça me coûte combien. Nous, on aime bien dans l'équipe de parler de perte acceptable. Je suis prêt à perdre combien pour voir. C'est un peu comme au poker. Alors, on va pas mettre tout notre argent sur la table, c'est vraiment pas le but. Mais de se dire finalement, pour s'assurer que ça, c'était pas une bonne idée qui est en train de passer, finalement, je mets combien pour me faire une idée sur la question. C'est pas pour autant qu'ensuite on va le suivre. Mais on a vraiment, je pense, ici, cette opportunité de se dire je regarde et je suis capable de refermer. C'est aussi ça la force, je pense, de la direction innovation, c'est d'être capable de refermer sans se dire on s'est trompé. Ouais. C'est il fallait voir, on a regardé. Dans les sujets comme ça super risqués, qui font vraiment débat et sur lesquels on ne savait pas trop si c'était juste du buzz médiatique ou s'il y avait quelque chose qui sortait, on est allé regarder tout ce qui était énergie des vagues. Énergie houlomotrice, en se disant, voilà, est-ce qu'il n'y a pas, en fait, de nouvelles formes de production d'énergie qui sont en train d'apparaître et qui pourraient être intéressantes de creuser. Et donc, on a lancé une étude pour aller explorer un peu, notamment, beaucoup de start-up qui se lancent sur le sujet et avoir une idée vraiment précise des technos qu'elles proposent. Ça a été fait en lien avec les équipes renouvelables et les équipes de la R&D, qui ont cette expertise aussi très pointue. Et puis ensuite, on va regarder est-ce qu'il n'y a pas des géographies sur lesquelles ces types de technologies seraient particulièrement intéressantes à déployer. Donc voilà, on est en plein dedans, mais ça peut faire partie des sujets où on se dit, mais qu'est-ce que c'est farfelu d'aller regarder ça.
Alors, autant une centrale marémotrice, je vois bien, autant houlomotrice, j'ai un peu de mal à visualiser, je l'avoue.
Des gros flotteurs ou des sortes de serpents qui sont au-dessus. Voilà, il y a des géographies où on pourrait se dire ça pourrait être une source, en tout cas, de production d'énergie. Donc voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on se permet d'aller regarder, au moins pour se faire une idée sur la question et savoir si c'est du buzz. Ouais. Ou si c'est une vraie innovation qu'on pourrait déployer ensuite sur certaines géographies. Voilà, après, on ne met pas le même effort sur les sujets en fonction de comment est-ce qu'on veut les dérisquer et l'importance qu'il y a aussi pour le groupe.
Ok, mais une fois qu'on a tous ces projets plutôt risqués dans le radar, comment est-ce qu'on choisit sur lequel on va continuer de mettre les efforts de développement ? Et quel est le processus pour partir de l'idée et arriver à une offre de service qui apporte réellement une contribution nouvelle à la transition énergétique ?
Je pense qu'il y a deux ingrédients qui sont, au moins deux ingrédients qui sont indispensables. Le premier, c'est vraiment d'avoir cette ouverture sur l'extérieur pour pas que ce soit la fausse bonne idée finalement qu'on a en interne et puis on se rend compte qu'on est à côté de la plaque. Donc ça, c'est une première branche. Et la deuxième, en fait, c'est vraiment de toujours avoir dans les groupes de travail qu'on peut monter, dans les réflexions qu'on peut conduire, des personnes du métier impactées pour ne pas être hors sol complètement. Et donc c'est un vrai jeu d'équilibriste pour pas être trop proche du métier, qu'on nous ramène trop à l'existant et en même temps ne pas être complètement en dehors des clous. Et donc, on a vraiment ce jeu d'équilibriste, je trouve, au quotidien pour répondre à un besoin et en même temps ouvrir sur quelque chose qui est beaucoup plus incertain, beaucoup plus risqué. En tout cas, c'est l'accompagnement qu'on essaye de faire. Et on va dire, d'un point de vue vraiment théorique, on pourrait le représenter comme, au début, on va être très présent et dans l'incertitude la plus totale. Et au fur et à mesure, on va essayer de dérisquer, d'avancer, de réduire ce domaine d'incertitude dans lequel on est, pour que le métier prenne, lui, de plus en plus sa place.
Ok, je vois bien désormais la répartition des rôles entre les équipes innovation et les équipes métiers. Mais ça prend combien de temps de maturer un projet d'innovation ?
Eh bien, ça dépend vraiment des sujets, sachant qu'en plus, il y a parfois des technologies qui peuvent sembler très lointaines, mais on va regarder certains flux financiers qui sont énormes à un moment donné, beaucoup d'investissements sur une techno qui peut faire qu'on l'imaginait possible dans 30, 40 ans, et finalement, son émergence et sa réalisation, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on croyait parce que on a des fonds qui vont mettre beaucoup d'argent d'un coup. On a aussi, on voit aux États-Unis, des personnes très fortunées qui vont aussi pouvoir mettre énormément d'argent sur certaines technos et ça les accélère. Donc c'est impossible, je pense, à prévoir. Ça dépend vraiment des sujets.
Les hommes les plus riches du monde au chevet de la planète.
Les États ne sont pas les seuls à vouloir se mobiliser contre le réchauffement climatique. Le cofondateur de Microsoft a présenté hier son fonds d'investissement privé pour les énergies propres.
What we need to do is fund the kind of researchers who are looking at the early stages of these problems.
Elon Musk, le milliardaire qui a bâti sa fortune sur la voiture électrique, pourrait se rendre à Glasgow et faire un don pour limiter les famines dans le monde.
Welcome everyone to basically the announcement of Tesla Energy. All right.
Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, celui aussi qui promeut le tourisme dans l'espace, a pris un engagement colossal.
Aujourd'hui, je suis heureux de faire une promesse de don de 2 milliards de dollars alloués à la restauration de la nature et la transformation du système alimentaire.
Sur l'agriculture, on a identifié qu'il y avait justement tous ces degrés d'innovation qu'on pouvait mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire assez facilement pour pouvoir aider le monde agricole dans sa recherche d'efficacité énergétique. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont déjà à l'électrique. Ouais. Et on va les aider à voir comment est-ce qu'on peut améliorer la facture d'énergie. On est vraiment dans l'efficacité énergétique. C'est les engins agricoles, ouais. C'est le chauffage des cultures, c'est le chauffage aussi pour l'élevage des animaux. Il y a des très très grosses exploitations avec des consommations d'énergie qui varient vraiment d'un type d'exploitation à l'autre. Comment est-ce qu'on peut les accompagner dans cette transformation globale énergétique ? Et ensuite, il y a certains qui sont déjà à l'électrique et qu'on peut aider en fait sur cette partie efficacité énergétique. Et puis après, il y en a d'autres qui sont vraiment encore sur de l'énergie fossile. Et là, c'est un tout autre type d'accompagnement parce que c'est changement de process, c'est des investissements assez importants, etc. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on peut se dire aussi que les agriculteurs peuvent peut-être prendre part, être acteurs de cette transition énergétique, par exemple en étant soit puits de carbone, soit en produisant eux-mêmes de l'énergie. Donc voilà, on a vraiment un champ des possibles qui est assez large. Et donc ce sujet-là, on l'a ouvert l'année dernière et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de facettes différentes pour pouvoir accompagner ce monde-là. Ce qui est très différent là-dessus, c'est que c'est peut-être pas forcément... quand on pense à EDF, on pense pas à agriculture, on pense pas au secteur agricole. Il faut trouver le juste équilibre. Il faudrait pas que, parce que c'est plus rentable, l'agriculteur se met à délaisser ses terres et la production alimentaire pour pouvoir produire de l'énergie. Donc là aussi, il y a un juste équilibre à trouver. En fait, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de baguette magique pour se dire « c'est super, il y a une techno, on le déploie à 100%. » Non, je pense qu'il y a toujours ce juste équilibre à trouver entre à quoi ça va servir, à qui ça va servir.
Excellente question, Aude. Voilà qui me rappelle les propos de Patrick Lagadec sur la crise dans l'épisode 3. Ce qui la caractérise, c'est son caractère systémique. Elle fait tout bouger. Avec la transition énergétique, on voit bien que d'autres problèmes émergent et qu'on ne peut pas se contenter de s'en remettre au progrès technique. Les nouveaux objectifs liés à une électrification massive et à l'atteinte du net zéro vont entraîner des bouleversements des comportements et des usages. Et on ne peut pas anticiper toutes les conséquences inattendues des technologies. En cherchant de nouvelles marges d'action, l'innovation avance donc sur un fil. Et nous, avec.
Avoir cette pensée aussi systémique, si je mets ça en place, est-ce que ça ne me détruit pas quelque chose à côté ? Toujours avoir cette réflexion un peu globale des choses et qui n'est pas évidente. Parce que quand on va l'attraper par un petit bout, on peut se dire « ah ben là, on détient une innovation qui est incroyable. On a une techno qui est géniale. Mais en fait, non, il y a aussi une innovation sociétale à penser. Puis comment est-ce que je l'intègre dans cet écosystème ? D'un point de vue très, très personnel, moi, je me dis que il faudrait qu'on puisse avoir accès à l'énergie tout en restant dans les limites de la planète. Aujourd'hui, il y a quand même des usages qui ne vont pas forcément aller dans ce sens-là. On a quand même des usages qui vont être plutôt néfastes, on va dire, au monde dans lequel on vit, qui ne vont pas prendre en compte ces limites planétaires.
Chief pilot Dave Mackay, I'll be flying VSS Unity into space on the Unity 22 mission, joined by a full crew of Virgin Galactic mission specialists.
Plus on innove, plus on crée de cap.
Le e-commerce a explosé ces dernières années.
Innover, c'est produire quelque chose d'original qui renouvelle notre représentation du monde et nous fait grandir.
Si cette technologie accomplit des prouesses, elle renferme une part d'ombre.
C'est l'ampoule qui va apporter sécurité et efficience aux personnes pour plus être dans le noir.
Elle est si énergivore qu'elle laisse une importante empreinte écologique.
Notre conception de l'innovation produit la destruction.
Dans un premier temps, elle crée plutôt de la décroissance et du chômage.
C'est Facebook qui va connecter 2 milliards de personnes en même temps qu'il met en péril les régimes démocratiques.
Développer un logiciel d'intelligence artificielle générerait autant d'émissions carbone que 5 voitures à essence de leur fabrication à leur fin de vie.
Les sites proposent maintenant le retour gratuit, un système bien pratique, mais vous allez le voir, pas du tout écolo.
Et le plus gros retour de flamme que nous avons eu ces dernières années s'appelle simplement le réchauffement climatique.
Bizarrement, pourtant, j'ai travaillé dans l'intelligence artificielle. Je ne peux pas dire que je suis du tout geek ou que je suis très pro de tout ce qui est hyper high-tech. Parfois, il y a des choses qu'on peut faire beaucoup plus simplement, peut-être même bizarrement, alors que j'étais sur cette partie intelligence artificielle, on défendait beaucoup aussi la low-tech.
Une low-tech, c'est un système simple et accessible en termes de coûts et de savoir-faire qui permet de répondre à un besoin de base, tel que l'accès à l'eau, à l'énergie ou à l'alimentation.
Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de tech, ça veut dire qu'on trouve le juste niveau de technologie pour pouvoir répondre à un besoin.
Mais la low-tech, c'est aussi une philosophie, celle de faire mieux avec moins.
Et en fait, je pense que même sur l'intelligence artificielle, ce domaine sur lequel j'ai quand même travaillé pendant pas mal d'années, j'étais toujours effarée de voir certains projets qu'on pouvait mettre en place juste un peu pour la beauté du geste technologique. Alors qu'au final, ça servait à rien. Il fallait juste changer un process métier ou alors un bon tableau Excel, ça suffisait. Et donc, nous, on s'est toujours un peu battu dans l'équipe où j'étais pour se dire, d'abord, on va bien comprendre le besoin. On va bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Et en fait, on ne met de l'IA que si il n'y a que l'IA qui peut répondre. Il y a des choses que l'IA peut faire qu'un humain ne peut pas faire. Des calculs combinatoires extrêmement complexes avec des historiques de données énormes, un cerveau humain n'est pas capable de le faire. Dans ces cas-là, en fait, ça a un vrai sens d'apporter l'IA. Ça va permettre une aide à la décision, ça va permettre de conforter certaines choses. On peut s'améliorer avec ça. Mais alors, mettre de l'IA pour faire gadget, enfin, nous, ça nous dépassait complètement dans l'équipe.
Aude a raison. La fascination pour la technologie peut conduire à mettre de l'IA et du digital, même là où ça n'apporte pas de valeur significative. Alors je me demande comment un groupe aussi énorme qu'EDF peut s'assurer de la cohérence de tous les projets qui sont menés avec les enjeux de la transition énergétique.
Il y a déjà, EDF s'est doté déjà d'une raison d'être il y a quelques années, et cette raison d'être, elle a été créée collectivement. C'était déjà très innovant la façon dont ça avait été fait, puisque c'était vraiment en interviewant pas mal de salariés différents et en ayant cette consolidation au final. Et puis ensuite, ça a été validé en COMEX. Donc il y a cette raison d'être qui est quand même très présente et qui décrit bien les enjeux auxquels on va s'attaquer. Et puis après, là, au niveau de la direction innovation, on a un cadrage stratégique de l'innovation qui est co-construit avec les métiers, qui est mis en place avec à la fois la R&D et la direction de la stratégie groupe. Puis ensuite, ce cadrage stratégique de l'innovation, il est diffusé. Il est diffusé au sein des différents CODIR, il est diffusé très largement pour qu'un maximum de personnes qui travaillent dans l'innovation aient connaissance de ce cadrage-là, parce qu'il donne quand même les grands axes prioritaires sur lesquels on souhaite innover. Et il ne veut pas du tout, on ne veut pas brider l'innovation, c'est au contraire de se dire voilà les 6 grands enjeux, voilà les 6 grands axes sur lesquels on doit vraiment mobiliser nos différents efforts. Et après, chaque métier est très libre d'aller créer l'innovation qui va bien à l'intérieur de ces axes-là.
Le pilotage de l'innovation est donc aussi, on le voit, une question d'équilibre entre la structuration d'axes et de priorités et la latitude laissée aux experts métiers pour créer et proposer de nouvelles technologies ou de nouveaux services à l'intérieur de ses priorités. Ce que je me demande, c'est si le développement des innovations peut suffire pour répondre à l'urgence de la transition énergétique.
Bonne question.
J'ai toujours les meilleures questions.
En fait, alors c'est peut-être parce que je viens à la fois du monde de la technique, mais aussi des sciences humaines. J'ai l'impression que finalement, la partie technologique, on peut la résoudre beaucoup plus facilement. Mais c'est plutôt, on va dire, tout ce qui est acceptabilité, conduite du changement, modification de nos modes de vie, des usages. Pour moi, ça, c'est une part qui est beaucoup plus difficile à mettre en place. Enfin, j'ai l'impression que c'est la part la plus importante, elle est là. La partie technologique, finalement, j'ai l'impression qu'on peut toujours réussir à la résoudre. Nous, ce qu'on se dit beaucoup dans notre équipe, on a changé complètement notre façon de voir les choses cette année. Au départ, on se disait vraiment, on est là pour convaincre. Convaincre, en fait, c'est rationnel, ça fonctionne, c'est vachement bien, on va les convaincre que c'est une bonne innovation. On a complètement changé notre façon de voir les choses et on se dit beaucoup aujourd'hui, il faut qu'on donne envie. Il faut qu'on se donne envie, donc ça veut dire aller sur de la création de nouveaux récits, c'est montrer en quoi cette innovation-là, elle va apporter quelque chose qui est mieux que ce qu'on pouvait avoir avant, en quoi elle va être à la fois utile, mais aussi elle va nous emmener dans un monde peut-être meilleur. Et on est vraiment en train de changer notre façon, en tout cas, de voir les choses sur comment on passe de convaincre avec des discours ultra-rationnels à comment est-ce qu'on donne envie.
Donner envie. Ce n'est pas la première fois que l'un de mes témoins évoque cette nécessité de rendre désirable un avenir qui fonctionnerait différemment de notre présent. Mais comment le faire concrètement quand on est une entreprise comme EDF? Y a-t-il des projets d'innovation consacrés à cet objectif? Et si oui, lesquels?
Celui sur lequel on déploie quand même beaucoup d'énergie en ce moment, c'est ce projet autour de la sobriété. Et on est vraiment sur comment est-ce qu'on construit quelque chose de différent. Nous, on travaille beaucoup avec les directions de commerce, ouais, là-dessus, sur comment est-ce qu'on repense la fourniture même d'énergie. Mais bon, après, ça, on est vraiment en plein dedans, donc ouais. C'est un peu compliqué. Mais nous, on pense que ça, c'est aussi un sujet qui est primordial. Et là, justement, on touche à énormément de choses qui sont très difficiles pour une entreprise. Parce que dans une entreprise, on va dire, assez classique, c'est prix fois volume.
Prix fois volume, c'est un peu le paradigme de l'ancien monde, ça, non?
En tout cas, c'est aujourd'hui celui qui prévaut parfois encore et qui nous empêche peut-être de penser différemment. Et après, il y a des entreprises qui font, je trouve, vraiment un pas de côté en ce moment, si on regarde même ce que fait Decathlon, en se disant, finalement... il y a beaucoup de data derrière, mais je vais mieux comprendre les usages, etc. Et puis, en fait, je vais proposer plutôt l'accès à un équipement et pas l'achat, ce qui va me permettre derrière de rendre cet équipement encore plus robuste et résilient parce que quand on me le ramène, je sais pourquoi est-ce qu'il a cassé et je peux encore plus vite aller sur cette boucle d'amélioration continue. Là, on se dit, et pour autant, je pense que ça va fonctionner.
Peut-on imaginer qu'une enseigne comme Decathlon ne vende plus des produits fabriqués à l'autre bout du monde, mais un accès à leur usage? Peut-on imaginer une entreprise comme EDF construire un business model qui ne soit pas basé sur la logique prix fois volume? Peut-on compter sur les entreprises pour porter une intention et un discours qui ne soient plus ceux du toujours plus de consommation? À travers cet échange avec Aude, je perçois que l'innovation d'aujourd'hui ne se limite vraiment pas à améliorer l'aspect technique des produits et des services. Elle s'attaque aussi à nos habitudes, à nos comportements, et vient questionner des postulats qui paraissaient jusqu'à récemment encore indéboulonnables. Même si ce n'est pas simple, et même si le défi est immense, la transition se fera aussi grâce à tous ceux qui, comme Aude et ses équipes, tentent d'articuler l'existant et le futur, le monde d'aujourd'hui et celui de demain.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquetedavenir.com.